Aujourd'hui, à rencontre, Lucien Coutu. Lucien Coutu est prêtre de la congrégation de Sainte-Croix. Il a vécu assez longtemps en Orient, il connaît bien l'Orient, pour avoir animé, entre autres, dirigé une revue qui s'appelle précisément Orient. Et il est présentement animateur à la maison Emmaüs, située près du stade olympique. Lucien Coutu, je pense que votre itinéraire, à un moment, a bifurqué. Il a bifurqué quand vous avez pris contact avec des hippies. Qu'est-ce que les hippies ont changé dans votre vie?
C'est vrai que c'est un événement majeur dans ma vie, puisque je rentrais de Rome, où j'avais étudié la missiologie à la Grégorienne et où j'avais été aussi secrétaire particulier du supérieur général de ma communauté, la congrégation Sainte-Croix.
Vous aviez quel âge?
Quand je suis arrivé à Rome, j'avais 28 ans. Et quand je suis rentré au pays de façon définitive, ça c'était en janvier 69. Alors j'ai découvert le phénomène hippie d'abord à Toronto en 67, lors du congrès de théologie de Toronto, qui lançait, n'est-ce pas, la théologie de Vatican II en Amérique du Nord. Il y avait là tous ces évêques, cardinaux d'ici, en plus les théologiens d'ici et d'Europe. Enfin, quelques grands noms.
Vous-même, donc, à moins de 30 ans, vous aviez été conseiller d'évêque au moment du concile et conseiller aussi de votre supérieur général.
C'est-à-dire conseiller, non. J'étais secrétaire particulier du supérieur général et j'étais aussi, enfin, disons, théologien privé d'un évêque parce qu'il était normal que les évêques viennent au concile avec un ou deux théologiens, mais comme la plupart des évêques du tiers-monde, ne venait pas au concile accompagné de théologiens. On a demandé à plusieurs prêtres de Rome de leur rendre ce service. Et c'est comme ça que j'ai pu être le théologien privé d'un évêque de ma communauté qui se trouvait en Ouganda, d'ailleurs.
Mais très jeune, donc, vous étiez, si on peut dire, lancé sur une belle carrière ecclésiastique.
Alors, je vous avouerai que je n'aime pas trop ce...
Mais je veux bien admettre que vous n'aimiez pas, mais c'était quand même la réalité.
Oui, mais je n'ai jamais pensé. Donc, franchement, honnêtement, je n'ai jamais pensé à une carrière ecclésiastique. D'ailleurs, je trouve cette mentalité, excusez-moi, un peu détestable. Je me préparais à Washington en théologie, mais pendant les vacances, j'allais étudier la littérature américaine et anglaise à l'Université Notre-Dame Indiana, près de Chicago, en vue d'enseigner l'anglais, la littérature anglaise et américaine, dans un des cégeps, soit Maisonneuve ou Saint-Laurent, qui étaient quand même des collèges fondés par ma communauté. Mais quand ces collèges sont devenus cégeps, d'ailleurs avant qu'ils deviennent cégeps, j'avais été nommé à Rome, le père général m'avait demandé de venir à Rome, lui rendre ce service. Ça devait durer un an ou deux, et en fin de compte, ça a duré 6 ans, et je suis resté une 7e année pour continuer ou terminer mes études en missiologie.
Et puis, tout à coup, vous êtes donc happé par ce phénomène, n'est-ce pas, que vous rencontrez?
Alors, c'est-à-dire, c'était tout à fait... j'allais dire par hasard, non, c'est sûrement une grâce. En sortant de la séance d'ouverture du congrès de théologie, tout à coup, nous voyons 300 à peu près jeunes aux cheveux longs et...
Plus long que les vôtres?
Oui, quoique les miens ont déjà été plus longs. À l'accoutrement un peu bizarre et assis dans le parc, le Queen's Park, en plein cœur de l'Université de Toronto, où se passait ce congrès. Et alors, évidemment, ça m'a beaucoup intrigué. Je me suis assis. Et je dois dire que pendant les 3 nuits de ce congrès, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et à un moment donné, je me suis demandé si Jésus n'était pas plus présent au cœur de ce phénomène qu'à l'intérieur de ce congrès de théologie, où on entendait parler très peu de Jésus, soit dit en passant. Alors, c'est comme ça que j'ai pris connaissance avec ce phénomène de contestation que je trouvais quand même d'ampleur en Amérique du Nord. Très vite, j'ai vu un lieu de la mission. J'avais étudié en missiologie.
Ces hippies-là, enfin, cette contestation, cette contre-culture, comme on dit maintenant, en quoi cela est-il un lieu, justement, de la mission?
Et voici, je me rendais compte, en écoutant ces jeunes, pendant les trois nuits du congrès, et cela s'est vérifié par après, au cours de mes voyages, en Californie, à Vancouver et ailleurs, je me rendais compte, en somme, que la plupart venaient quand même de pays où le christianisme avait laissé ses traces. La plupart étaient passés par le christianisme, soit de famille catholique ou protestante. Alors, je me disais, pour les catholiques, ils ont été baptisés, confirmés, ils sont passés par nos catéchèses. Et pour moi, je les vivais comme au stade de la pré-évangélisation. Je me dis, mais ils ne savent rien de Jésus. Pour eux, Jésus, il est mort, et maintenant, il y a d'autres prophètes auxquels on va s'adresser. Alors, je me disais, bien, c'est un milieu. L'Amérique du Nord, au cœur de la jeunesse, dans sa jeunesse, elle est devenue... c'est devenu un pays déchristianisé, qui a besoin de nouveau qu'on annonce Jésus ou qu'on rende Jésus présent. Alors, c'est ce qui m'avait frappé en 67. Je suis allé à Rome ensuite, je suis rentré à Rome pour terminer mes études en missiologie. Et quand je suis rentré, comme vous l'avez souligné, on m'a confié la direction et la rédaction de la revue Orient. Et j'ai voulu tout de suite écrire des textes sur ce phénomène à cause des connotations spirituelles et prophétiques que j'avais pu constater. Et alors, je suis allé à New York, à Boston, éventuellement en Californie, et enfin en Orient, sur les traces des jeunes pèlerins d'ici qui étaient assoiffés de spirituel et qui n'arrivaient pas à trouver dans les synagogues ou dans les églises d'ici des réponses à ses soifs et à ses interpellations, à ses interrogations.
Lucien Coutu, je trouve que vous allez vite quand même, parce que vous savez comme moi, un certain nombre de gens de mon âge, en tout cas, estiment que ces jeunes, en fait, sont des gens plutôt décadents, n'est-ce pas? Que ce sont même des gens qui vivent en marge et qui sont incapables de prendre des responsabilités pour transformer la société et qui profitent de la société.
C'est vrai. Je crois que votre remarque est juste au sujet peut-être de ceux et de celles très nombreux qui se sont accrochés à la contre-culture et dès les débuts. Il faut penser que la contre-culture était en réaction contre un système et une organisation de vie en Amérique du Nord et je dirais même dans la plupart des pays riches de l'Occident, un style de vie et un système quand même très exigeant. Dans certains de ses aspects très intolérants, devenu très bureaucratique, très loin de la vie. Et alors, cette contestation, dès le départ, personnellement, je la trouvais, et on avait l'impression, en la regardant, de toute manière, que c'était voulu, que c'était une contestation et très tolérante, en réaction justement à l'intolérance que ces jeunes avaient vécu à l'intérieur des écoles, à l'intérieur de leur famille, à l'intérieur des milieux de travail. Et on sentait une espèce de soif de liberté, une espèce de soif de... Il faut dire aussi, évidemment, qu'il y avait à cette époque la guerre du Vietnam. C'était au lendemain des troubles raciaux aux États-Unis, où quand même un certain nombre de ces jeunes s'étaient engagés aux côtés des Noirs en faveur du respect des droits des Noirs. Alors, il y avait, on sentait une déception profonde face à cette civilisation occidentale, ou enfin, disons, nord-américaine, et par après, évidemment, ça s'est répandu beaucoup en Europe aussi, et j'insiste beaucoup, c'est surtout dans les pays riches, et d'ailleurs le Japon aussi, jusqu'à un certain point. Alors, dès le début, on remarque une espèce d'attitude de tolérance, et même de tolérance extrême, peut-être un peu naïve, peut-être un peu crédule aussi. Faut dire d'abord que ces jeunes sont aussi, où je remarquais et j'étais frappé, que quand même dans un pays comme les États-Unis, où on était arrivé à orienter vers les universités quand même des nombres considérables de jeunes, peut-être pour la première fois dans l'histoire du monde, que tout à coup on se trouvait devant un phénomène où on manifestait tellement d'anti-intellectualisme et presque voulu.
Mais vous dites tolérance, Lucien Coutu, pourquoi ne dites pas un autre mot qui pourrait peut-être être aussi vrai, de relâchement, n'est-ce pas, en particulier dans les mœurs? Vous-même, dans votre livre Pèlerinage à l'Est, n'est-ce pas, vous insistez beaucoup, par exemple, vous faites la remarque, n'est-ce pas, oui, qu'il y a un relâchement, par exemple, de la morale sexuelle.
Bien sûr. D'abord, je tiens à préciser que ce que j'avais dit dans mes remarques du début, ce qui m'avait frappé, c'était les connotations spirituelles et prophétiques. Bien sûr qu'il y a beaucoup de comportements et d'attitudes que personnellement, je n'endosserai pas. Mais je les vois aussi comme des interrogations, des pistes de recherche. Et là, je parle toujours de ce que je considère comme authentique dans cette contestation, évidemment, qui regroupe des minorités, bien sûr. Parce que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes, et même très jeunes, de 14-15 ans, dans les années 68-69, qui ont envahi San Francisco par milliers et milliers tous les jours, c'était des jeunes, enfin, très immatures, qui s'accrochaient à une contre-culture et qui allaient dans ces milieux à cause, disons, comme vous dites, de certains relâchements ou de facilité face à l'usage de la drogue, facilité sexuelle et le reste, bien sûr. Mais pour moi, ce n'est pas ça, d'abord, la contre-culture. Ce sont, disons, des à-côtés un peu malheureux. Mais je crois que, même encore maintenant, en 80, cette contre-culture a encore des choses à nous dire. Elle est encore prophétique. Elle a encore des connotations fortement spirituelles. Et je pense surtout à tous ces jeunes que j'ai pu voir dans les ashrams de l'Inde, au Japon aussi. Bien sûr que ce sont des minorités, je suis d'accord. Mais est-ce que ce sont des minorités quand même importantes, appréciables, qui vont se mettre à l'école
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas là quand même une espèce de fascination exotique, n'est-ce pas? Pourquoi aller au Japon? Pourquoi aller en Inde? N'est-ce pas? Pourquoi faire le tour de la Terre pour aller soi-disant trouver des gourous, n'est-ce pas? Des maîtres spirituels? Alors qu'il y en a plein en Orient, n'est-ce pas? Je peux vous donner des adresses. Même rue Desjardins, il y a peut-être des gens, des maîtres spirituels à Montréal, n'est-ce pas? Pourquoi aller à l'autre bout du monde?
C'est une question que je me suis posée. Je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi ces jeunes sentent le besoin d'aller frapper aux portes des maîtres du Japon et de l'Asie? Il soit dit en passant que malheureusement, plusieurs sont allés frapper aux portes de maîtres que les hindous eux-mêmes considèrent comme quand même très ambigus, sinon même charlatans. Mais je me suis posé la question, pourquoi les jeunes d'ici ne vont pas frapper à la porte des presbytères et à la porte des monastères d'ici?
Et
d'ailleurs, la question que je m'étais posée aussi à Toronto, mais moi, comme prêtre, je ne suis pas perçu comme un homme du spirituel ou un homme de Dieu ou un homme capable d'initier à la prière et à l'intériorité, parce que je suis un prêtre. Et je remarquais pour les jeunes juifs, c'était la même chose vis-à-vis du rabbin.
C'est-à-dire que pour vous, donc, le prêtre apparaît comme un fonctionnaire?
Aux yeux de beaucoup de jeunes, oui. Comme d'ailleurs l'Église, je crois. Je crois que lorsqu'ils font l'expérience de l'Asie, bien, ils prennent conscience qu'en Asie, quand on sent en nous un désir de démarche spirituelle, tout de suite, on va se mettre à l'école d'un maître, d'un quelqu'un qui est passé par ces chemins ardus de l'intériorité. On se met à son école pendant
un temps. Vous employez des mots, Lucien Coutu, qui m'apparaissent quand même un peu ambigus. J'aimerais que vous essayiez de les clarifier. Vous parlez d'expérience spirituelle. Vous parlez d'intériorité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Quand je parle d'intériorité, dans le contexte de la contre-culture et dans le contexte de ce qui est devenu en Occident la recherche spirituelle pour beaucoup d'adultes aussi qui sont allés frapper à la porte de maîtres spirituels ou qui se sont mis à l'école de cheminement spirituel venant de l'Orient. À ce moment-là, je parle d'une démarche spirituelle qui se situe au niveau du cœur et non pas de la tête. En ce sens, c'est une expérience spirituelle qui dépasse les confins et les limites de ce que nous appelons le mental. Je crois que le christianisme occidental, enfin, depuis quelques siècles, nous donne l'impression d'être un christianisme où la théologie a beaucoup, beaucoup de place, occupe une très grande place.
La discussion purement rationnelle.
Voilà, voilà. Et alors que, faut parler aussi de l'influence du phénomène drogue à l'intérieur de cette recherche spirituelle. C'est bien sûr que beaucoup de jeunes ont connu des expériences très malencontreuses et peut-être qu'ils les marqueront pour le reste de leur vie, je suis d'accord. Reste qu'il y a une minorité quand même assez intéressante qui, à partir des expériences de drogue qui étaient devenues presque généralisées à l'intérieur de ce phénomène, bien, ont quand même touché en eux des espaces ou des zones qui dépassaient, disons, ce qu'on peut appeler l'intelligence discursive ou la connaissance strictement cérébrale ou la connaissance intellectuelle.
Vous, par exemple, Lucien Couture, on parle des jeunes, mais vous avez vécu dans un monastère Zen, par exemple.
Oui, au Japon.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
Je crois que j'avais quand même vécu des expériences aussi au Centre Montchanin à Montréal, où j'étais animateur pendant quelques temps en rentrant de Rome. J'avais connu là des hindous et je me suis aperçu en priant avec des hindous à Montréal, de bons amis, qui sont encore de bons amis pour moi, je me suis aperçu que j'avais lu pourtant le texte de l'Évangile où on dit que Jésus s'est retiré 40 jours au désert, mais je ne l'avais jamais compris autant que je l'ai compris en priant avec des hindous, tellement la qualité de leur silence était interpellante. Alors, à ce moment-là, en relisant le Nouveau Testament, je me suis aperçu qu'en somme, Jésus, à tout bout de champ, les textes nous disent que Jésus se retirait dans la solitude pour prier. Jésus se retirait seul pour prier. Jésus se retirait dans le désert pour prier. Ça, je comprenais de façon nouvelle ces textes où on nous dit, quand tu veux prier, va-t'en dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. Alors, je comprenais que ce secret, ce n'était pas ici. Ce n'était pas en formulant de belles idées, de belles prières intellectuelles, mais que c'était en faisant le silence à ce niveau-ci et en entrant à l'intérieur de mon cœur le plus possible dans le silence intérieur, à me mettre à l'écoute de Jésus et à tout simplement m'asseoir en ne pensant à rien, en faisant le silence donc au niveau d'imagination, au niveau de la mémoire, au niveau de l'intelligence discursive et en attendant tout simplement les visites de Dieu.
Et ça, vous ne pouviez pas le trouver à l'intérieur de la culture occidentale, à l'intérieur, disons, de la tradition occidentale?
Bien sûr que j'aurais pu le trouver. L'expérience de la méditation que je garde est celle-ci, et je donne un exemple parce que j'avais quand même médité pendant plusieurs années. Quand j'étais étudiant à Washington en théologie, l'horaire demandait que nous levions à 5 heures le matin, et à 5h30, nous étions à la chapelle pour une demi-heure d'oraison. C'était donc une demi-heure de ce que nous appelions en anglais « mental prayer », une demi-heure de prière mentale, disons, avec des méthodes, disons, qu'on nous avait enseignées un peu au noviciat, où il fallait faire intervenir beaucoup, je crois, quand même, l'intelligence, l'imagination, l'affectivité et tout ça. Et ensuite, bien, à la fin, prendre de bonnes résolutions pour la journée. C'était une méthode d'oraison, bien sûr, valable, je crois, mais ce que je retiens, c'est que pendant les 4 ans que j'étais à Washington, il était bien important pour moi que j'arrive à temps à la méditation. C'est-à-dire, il était important pour mes supérieurs que j'arrive à temps à la méditation et que je sois là à 5 heures, à 5h30, c'est-à-dire, jusqu'à 6 heures, immobile et le plus silencieux possible. Mais pendant 4 ans, personne, mon père spirituel, personne ne s'est informé qu'est-ce qui se passe pendant que tu médites. Donc, j'ai l'impression qu'on ne nous a pas enseigné à méditer. On ne nous a pas initié à la méditation. Alors, lorsque les jeunes d'ici ont commencé à visiter ces espaces intérieurs, et ce fut par le phénomène, pour beaucoup, par le phénomène de la drogue, et en disant cela, je ne veux pas dire que c'est nécessaire de prendre la drogue pour faire l'expérience spirituelle, bien sûr. À ce moment-là, ils n'ont pas vu autour d'eux des personnes en mesure de les accompagner sur ces chemins de l'intériorité. Et comme, disons, l'orientalisme faisait partie un peu aussi de ce phénomène culturel, à cause des livres qui commençaient à circuler sur le yoga, le zen et le reste. Alors, des jeunes se sont mis sur les routes du Japon, de l'Inde, et là, bien, sont allés chercher des maîtres et qui sont venus un peu, comme on en voit maintenant, partout dans les grandes villes de l'Occident, des maîtres soit de zen ou soit des maîtres hindous, et aussi, bien, des maîtres, je ne sais pas si ce sont des maîtres, mais des personnes orientalisantes, en somme, qui font faire des démarches spirituelles, qui, d'accord, ne sont pas toujours sûres, mais quand même qui viennent en réponse à des attentes.
Mais vous-même, là, qu'est-ce que vous faites à cette maison Emmaüs?
Ah, bien, la maison Emmaüs... Enfin, c'est un peu difficile à décrire. Je me lève à 5h30, je me couche vers 11h, il se passe beaucoup de choses entre les deux.
Oui. Est-ce que vous vous définissez vous-même comme un maître spirituel?
Non. Personnellement, je ne suis pas un maître spirituel et je ne crois pas que dans le christianisme, on puisse se définir comme un maître spirituel.
Pourquoi?
C'est Jésus le maître spirituel. Jésus, il est vivant, nous attendons son retour, il est très agissant par son esprit. Moi, je ne suis qu'un instrument. Enfin, le Seigneur a voulu que je sois attentif à ce phénomène. Ça aurait pu être un autre, j'aurais pu sortir par une autre porte. C'était tout à fait inattendu.
Oui, mais ce qu'on ne vous a pas enseigné à vous, j'imagine que maintenant que vous l'avez découvert, vous voulez l'enseigner aux autres, vous voulez le communiquer
oui.
aux autres.
Oui, bien sûr, mais c'est une expérience de vie communautaire. Et à l'intérieur de cette expérience de vie communautaire, comme la plupart des jeunes qui viennent, ben, veulent faire une démarche d'intériorité, alors, tous les matins, nous recueillons dans le silence de notre salle de prière et le soir, avant le souper, nous célébrons l'Eucharistie. Et, enfin, il y a aussi des activités extramuroses.
Est-ce que vous favorisez, vous, des techniques de prière?
Oui, nous avons... Ils ont choisi la prière de Jésus, les icasmes,
qu'est-ce
la prière
que c'est?
Du cœur. J'avais découvert cette spiritualité et cette technique de méditation et d'oraison à Pecos, au Nouveau-Mexique, lors d'un voyage en Californie où je voulais un peu fréquenter les hauts lieux de la contre-culture américaine et aussi visiter à ce moment-là les hauts lieux du renouveau charismatique aux États-Unis. C'était en 73 et... Le renouveau charismatique avait le vent dans les voiles. Et je voulais écrire des textes et j'étais un peu interpellé par ce phénomène aussi, d'autant plus qu'il mettait l'accent sur la prière du corps et je trouvais que ça avait été très négligé dans le christianisme occidental, aussi la danse spirituelle. Yes. Alors, je suis allé à Pecos, qui est un monastère bénédictin, où tous les moines exercent un ministère charismatique. Et j'ai là pu faire une retraite d'une semaine complète avec une quarantaine de prêtres du sud-ouest des États-Unis. Qui était venu justement pour une retraite annuelle, être un peu initié à la spiritualité charismatique. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé de cette spiritualité, de l'hésychasme, qui est quand même assez voisine, du moins pour la technique d'oraison de méditation, elle est assez voisine des techniques orientales de type bouddhique ou hindou. Par exemple, on accorde de l'importance à la posture du corps pour la méditation, au souffle et aussi à l'usage d'un mot sacré. En vue de taire le mental pour préparer l'esprit, qui est dans le cœur, comme disent les pères du désert, à faire l'expérience de Dieu dans le silence profond. Alors, c'est cette technique et cette spiritualité que nous avons voulu privilégier à la maison depuis ce temps, donc depuis 73 à peu près.
Lucien Coutu, vous avez parlé tout à l'heure de communauté. La communauté pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la congrégation de Sainte-Croix ou ce sont les gens qui fréquentent votre maison?
Voici, je suis membre de la congrégation Sainte-Croix, c'est vrai. C'est une communauté à laquelle je suis très attaché. Mais disons, des personnes sont venues. Voici, je dois vous dire ceci au début. En 71, la fraternité ou la maison où habitait la fraternité à laquelle j'appartenais, cette maison a été vendue et là je me trouvais, sans logis. Alors j'ai demandé à mon provincial de me permettre d'aller au Carré Saint-Louis. Je me suis dit, il faudrait qu'il y ait au cœur de la contre-culture québécoise au moins une maison avec une salle de prière où on peut s'initier à l'oraison, à la méditation, au silence intérieur, à l'école de Jésus. Parce que je voyais qu'il y avait des jeunes qui allaient chez le gourou un tel, le roshi un tel, le maître un tel. Enfin, il y avait tous ces groupes orientaux dans la métropole, mais lorsqu'il s'agissait d'orienter quelqu'un vers une expérience spirituelle de ce type, à l'intérieur de son propre patrimoine culturel et religieux, on n'en avait pas. Alors je me suis dit, je vais aller au Carré Saint-Louis et je serai là présent comme prêtre. Et ceux qui voudront venir s'initier à l'oraison, à la prière, à l'école de Jésus, je serai disponible. C'est un peu comme ça que la maison a commencé. Alors, des gens sont venus et sont restés quelques mois. En général, on reste 2, 3, 4, 6, 9 mois. Là, il y en a un qui est là, qui commence sa troisième année. Alors, je me suis dit, il y en a un qui est là pour une troisième année, probablement que ce serait mieux que nous commencions à devenir une communauté. Alors, c'est comme ça que l'idée est née, mais je reste très attentif aux signes des temps, parce que, en somme, je me dis, c'est l'Esprit qui nous inspire. Il faut être à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour maintenant, pour ces jeunes qui viennent à la maison. Est-ce que d'autres viendront qui seront un peu plus matures et que nous serons en mesure à ce moment-là de vivre une expérience communautaire, disons, plus respectueuse de toutes les dimensions de la communauté? Moi, je ne sais pas.
Vous êtes un franc-tireur, quand même.
Ben, disons franc-tireur. Personnellement, je suis un homme, je crois quand même, timide. Et cet événement est arrivé dans ma vie tout à fait inattendu, comme je disais tout à l'heure, et j'ai essayé d'y répondre au meilleur de ma connaissance. Je me sens encore bien dépassé. J'aurai encore beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à vivre. J'aurai beaucoup de lieux encore à fréquenter. Mais je me dis, comme je vous disais tout à l'heure, je me lève le matin, je me couche le soir, il se passe des choses entre les deux. Et c'est ainsi que depuis...
Vous laissez venir.
Ben, je laisse venir. C'est-à-dire que j'essaie d'être au service de ce qui se présente, de la vie qui se présente.
Mais pour vous,
enfin, je la provoque un peu aussi quand même.
Oui. Parce que pour vous précisément, n'est-ce pas, vous croyez qu'il y a un changement qui s'amorce pour le monde occidental?
Honnêtement. Pour moi, c'est très, très, très clair. Enfin, on me croit un peu utopique lorsque je fais cette déclaration, ou enfin cette affirmation, mais je ne peux pas faire autrement que croire, et honnêtement croire, que nous évoluons vers, enfin, une civilisation, le mot est peut-être un peu fort, mais certainement vers des horizons plus spiritualistes que ce que nous avons connu depuis le 19e siècle, je crois, en Occident. Justement à cause de ces minorités de jeunes qui sont quand même assez nombreuses que j'ai rencontrées en Asie, par exemple chez le Dalai Lama qui est passé à Montréal récemment, je me disais, il y a là 75 jeunes qui s'initient à la langue tibétaine, donc des jeunes des pays riches de l'Occident, des Allemands, des Québécois, des Français, des Norvégiens, des Canadiens, des Américains, qui s'initient à la langue tibétaine et à la spiritualité bouddhique tibétaine. Alors je me dis, lorsque ces jeunes, et ça c'est un exemple, il y en a bien d'autres en Inde, lorsque ces jeunes reviendront en Occident, ou lorsque ces jeunes reprendront contact avec l'Occident, ou lorsqu'ils auront 40-45 ans, ils auront fort probablement des sagesses très intéressantes à partager avec nous. Et ce qui me rend très espérant.
Et vous croyez que le Christ aura une place dans cette sagesse?
Oh, bien sûr, parce que tout ce qui est vrai vient de Jésus, comme Jean le dit, tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Alors pour moi, le Verbe de Dieu est déjà présent dans tous ses cheminements et dans tous ses commencements de réponse.
Lucien Coutu, je vous remercie.